Bien, bonjour à tous tout d'abord. Et nous n'allons pas quitter David, mais nous allons le retrouver à la fin de sa vie, qui correspond aussi à la fin de son règne, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28. Donc chapitre 28 des Chroniques, du premier livre des Chroniques. Vous allez voir ce matin, on va lire beaucoup de textes. Je n'ai malheureusement pas trouvé le moyen de raccourcir ces textes, mais de notre côté, c'est bien de laisser plus de place à la parole de Dieu. Je crois que c'était important que ces textes soient lus dans leur intégralité pour bien se pénétrer du contexte. Donc, 1 Chronique chapitre 28, à partir du verset 1. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les vaillants hommes. Le roi David se tint debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu et je me préparais à bâtir. » Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour fils, je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Donc, comme nous le disions, nous sommes à la fin du règne de David. Quelques chapitres plus tôt, on lit que David est âgé et rassasié de jours. Donc, il va bientôt mourir et céder le trône à son fils Salomon. Mais d'après ce qu'on lit là, il semble vouloir lui céder autre chose que le trône, lui transmettre peut-être plus même que le trône. Il veut lui donner, lui insuffler le désir de rester attaché, comme aujourd'hui, verset 7, comme aujourd'hui, à la pratique des commandements du Seigneur. Et après des années de guerre, contre les Philistins en particulier, Israël est un pays enfin en paix. Les chapitres précédents, qui précèdent juste ces chapitres, les deux, trois chapitres précédents, montrent comment la société d'Israël est désormais structurée, avec les Lévites, qui sont consacrés au service du sanctuaire, les musiciens, qui semblent tenir un rôle important, tout le chapitre 25 est consacré aux musiciens, les juges, les magistrats, l'armée et les chefs des 12 tribus. À cela, ajouter des administrateurs pour gérer toutes les richesses du pays et quelques conseillers dans l'entourage immédiat de David. Et vous avez une société déjà bien organisée et très structurée. Et tout cela, David, maintenant, s'apprête à le confier à Salomon, son fils. Un regret, un seul, il n'a pas pu construire la maison de repos pour l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et encore, quand on l'écoute, on voit que c'est pas tout à fait un regret, parce que c'est pas dans le sens qu'il l'ait négligé. Il le dit lui-même qu'il avait l'intention de le faire et qu'il s'était préparé à le faire, mais que Dieu lui-même est intervenu pour l'en empêcher. Et de quelle manière Dieu est intervenu? C'est ce qu'on va voir quelques chapitres plus tôt, donc au chapitre 17, à partir du verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète : Voici, j'habite une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David : Fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan : Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel : Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis tout le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Et voilà, donc ensuite, les lignes qui suivent, il explique à Nathan ce qu'il doit transmettre à David. Il lui dit que c'est quelqu'un de sa postérité, qui sera sur le trône et qui construira la maison. Et ensuite, Nathan doit transmettre tout cela à David. Donc voilà de quelle manière Nathan est intervenu. L'Éternel est intervenu pour empêcher David de mettre son projet à exécution, de construire une maison à l'Éternel. Si vous lisez le verset 1, lorsque David s'adresse à Nathan, on ne sait pas trop s'il cherche à lui demander son avis. C'est surtout la réponse de Nathan qui nous fait penser que peut-être David demande l'avis de Nathan, du prophète Nathan. Disons qu'au minimum, David pense tout haut devant Nathan, à tel point que celui-ci se sent sollicité pour donner son avis. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est juste après l'arrivée de l'arche à Jérusalem, dans la liesse générale. Et peut-être que Nathan est un peu grisé par l'ambiance de la fête qui auréole David d'une popularité sans précédent. Et on le sent peut-être un peu pris de court et qu'il apporte un commentaire un peu hâtif à cette phrase de David. Et il dit « Fais tout ce que tu as dans ton cœur parce que Dieu est avec toi ». Je crois que là, c'est une situation qui nous est tous arrivée. On se trouve pris de court face à une parole et on répond un peu rapidement quelque chose d'un peu bateau, quoi. Mais dès l'année suivante, Dieu intervient auprès de Nathan, auprès du prophète, pour lui transmettre un message de la plus haute importance. Non, c'est pas toi, David, qui construira ma maison. Dans le parcours Alpha qui commence demain, il y a une soirée sur le thème « Comment Dieu nous guide-t-il ? » Je fais un peu de la pub parce que c'est la soirée à laquelle j'étais invité comme orateur. Mais voilà. Donc « Comment Dieu nous guide-t-il ? » Et en regardant un petit peu ce que nous propose le parcours Alpha pour répondre à cette question, il en ressort une harmonieuse association de 5 choses. Premièrement, la Bible. La parole de Dieu, qui exprime la volonté générale de Dieu. Pas pour des cas particuliers, mais la volonté générale de Dieu pour son peuple. Ensuite, deuxième point, le Saint-Esprit, dans la prière, qui peut susciter une conviction, un élan. Mais aussi des choses, peut-être beaucoup plus terre à terre, qu'il ne faut pas négliger. Le bon sens. Être chrétien n'implique pas de s'arrêter de réfléchir. Quatrième chose, le conseil des autres, notamment des chrétiens plus matures. Un proverbe dit « Celui qui écoute les conseils est sage ». Et enfin, cinquième chose, les circonstances qui donnent bien souvent une indication assez fiable de l'opportunité de se lancer ou non dans tel ou tel projet. Et David avait pour lui les deux premiers points, la volonté générale de Dieu. Il savait qu'un jour ou l'autre, le temple un temple serait construit pour l'Éternel. Deuxième point, il avait un désir profond et sincère, qui, bien évidemment, on le sait, nous, ne venait pas du Saint-Esprit, mais qui, lui, croyait pouvoir attribuer au Saint-Esprit. Mais en partageant sa conviction avec Nathan, que Dieu a ensuite inspiré, il a été préservé de grosses difficultés. Il a ainsi fourni l'occasion à Dieu de se révéler d'une manière qui le garde. Par contre, si Dieu lui a dissuadé de construire le temple, en laissant cette responsabilité à Salomon, ça n'a pas empêché David de travailler activement à la préparation. Et donc là, on revient au chapitre 28 de ce premier livre des Chroniques, à partir du verset 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Car c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. On le voit, David semble avoir accompli un travail considérable de préparation dans les moindres détails de tout ce qui constituerait le temple et de tout ce qui s'y trouverait. Il dit bien, d'ailleurs, que cela lui était inspiré par l'Esprit, à lui ou à d'autres, et là-dessus, Dieu ne le contredit pas. Et puis, il remet tout ça à Salomon, au verset 20, avec cette parole. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crée point, ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Est-ce que cette situation ne vous rappelle rien? Cette période de transition entre le règne de David et celui de Salomon, qui semble aussi être une période de paix aux frontières et de stabilité pour tout le pays, qui se trouve également être aussi une période de projet de construction pour la maison de l'Éternel. Moi, ça m'a frappé, le parallèle qu'il y a entre cette période de transition à la tête d'Israël et la période de transition pastorale que nous sommes en train de vivre actuellement. Le parallèle est également frappant entre cette période de paix après des années de guerre aux frontières d'Israël et la période de paix que nous vivons dans notre Église, paraît-il, après des années de difficultés que je n'ai pas connues, je n'étais pas des vôtres à cette époque-là. Entre la société très structurée, telle que nous l'avons évoquée tout à l'heure avec les différentes fonctions, les classes, etc., et les structures de notre Église. Et évidemment, entre la construction du temple et notre projet de déménagement. Néanmoins, si ce parallèle est frappant, je dois quand même peut-être arriver à ce stade, prendre quelques précautions notamment celle-ci, de rester très généraux et de ne pas faire un parallèle point par point. Samuel, notre Samuel, n'est pas David. Et Éric, il n'y a pas d'Éric dans la Bible, mais Éric n'est pas Salomon. Samuel ne va pas va partir, certes, mais il ne va pas mourir. Et il n'est pas du tout cet homme de guerre qui a versé du sang. Comme il est dit de David, nous connaissons notre Samuel comme un homme de paix. Je vous l'accorde, depuis longtemps déjà, il porte le projet de déménager l'église dans des locaux plus spacieux et il fait même partie du groupe de travail qui s'est constitué autour de Jean pour étudier les plans du local du boulevard Courchon. Mais il n'a jamais prétendu que l'esprit l'avait inspiré pour ce local et son aménagement. On prête à Salomon une quinzaine d'années lorsqu'il accède au trône. J'ai essayé de chercher à droite et à gauche, la moyenne se situe autour de 15 ans. C'est... Je livre ça comme ça. Donc, Éric n'a rien de cet adolescent boutonneux et sans expérience que pouvait être Samuel, que pouvait être Salomon lorsqu'il a accédé au trône. Bien au contraire, Éric a été un acteur essentiel de la structuration de notre Église. D'autre part, nous n'avons pas affaire dans l'Église à une succession dynastique, mais à un passage de témoin. Et il ne s'agit pas d'un trône, mais d'un service. Donc, le parallèle, la comparaison s'arrête donc à ses limites. Une autre précaution que je fais aussi tout de suite relève de la terminologie à propos de l'expression « maison du Seigneur » ou « ta maison ». Dans les chants que nous avons chantés ce matin, c'est revenu un certain nombre de fois et c'est le sujet de la journée. Terme que nous employons, la maison du Seigneur, ta maison, lorsqu'on s'adresse au Seigneur, on emploie ce terme de manière fréquente en parlant de notre bâtiment. Et là, il y a une nuance assez importante entre l'Ancien Testament, où le temple était appelé maison de l'Éternel, et où effectivement, Dieu a habité, l'Éternel a habité, sa gloire en ayant pris possession. Mais le Nouveau Testament nous dit que nous sommes, nous chrétiens, le temple de Dieu, et que son esprit habite en nous. Alors si nous employons le terme maison du Seigneur pour parler du bâtiment, c'est à condition qu'il soit bien clair pour nous que ce n'est pas le lieu où Dieu réside à l'exclusion de tout autre, mais plutôt que nous le reconnaissons comme le propriétaire, le véritable propriétaire de ces murs, nous-mêmes n'en étant que les administrateurs. Et donc, ce parallèle ayant été fait, les limites de son interprétation étant posée, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret pour nous dans ce que vit Israël à ce moment-là, avec 3000 ans d'écart et 3161 kilomètres de distance, 3161 paraît-il, entre Clermont-Ferrand et Jérusalem. Comment transposer ce que nous lisons ici et quel enseignement en retirer? Laissons-nous guider avec la suite du passage. Verset 21. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et donc là, on se souvient que David s'adresse à Salomon. Hein. Et voici, près de toi, pour toute œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Voilà. Voilà, tous les hommes et femmes disponibles, bien disposés, habiles, dociles à tous les ordres pour construire la maison de l'Éternel. Nous sommes tous consacrés pour le service de la maison de Dieu. Nous avons tous quelque habileté pour toutes sortes d'ouvrages que nous pouvons nous montrer disposés à mettre au service de la communauté. Il peut s'élever des responsables au cours des travaux. Et c'est ce qui est intéressant, parmi des personnes qui habituellement n'occupent pas de responsabilité dans la vie ordinaire de l'Église. Il y a ce mot « docile » que j'aime bien, mais j'aime bien dans ce contexte, parce que parfois il peut avoir une connotation un peu négative. Et peut-être pour mieux le comprendre, j'ai cherché dans la Bible en français courant, et voici la traduction qu'elle donne. « Tu peux compter pour le travail à faire sur des gens pleins de bonne volonté et de compétences, parmi les chefs et l'ensemble du peuple. Tu peux compter sur eux. plein de bonne volonté et de compétence. Dans un tel contexte, les codes établis peuvent être bouleversés temporairement. L'Église se doit de reconnaître l'expertise d'un frère dans un domaine où on ne le consulte pas habituellement pour la vie de l'Église. Certaines prérogatives doivent être mises de côté. C'est une très bonne chose de vivre cela sous le regard du Seigneur. Et c'est là un premier aspect de notre participation à la maison du Seigneur. Vous allez voir aujourd'hui, donc, qui est le thème étant notre projet de déménagement dans un nouveau bâtiment, Néhémie a préparé un questionnaire qui va vous présenter et auquel vous serez appelé à répondre personnellement chez vous. Et donc, vous constaterez qu'un certain nombre de questions sont consacrées aux travaux en termes de compétences et d'engagement temporel. Je reprends un verset de Jésus, une parole de Jésus dans Luc, chapitre 14. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Conformément au conseil du, ce que dit le parcours Alpha, faire un inventaire de nos forces relève du simple bon sens et répond à deux questions. Pouvons-nous nous engager et avec quelle stratégie? Donc c'est pourquoi vous trouverez toutes ces questions dans le questionnaire. C'est pour faire cet inventaire de nos forces. Pouvons-nous nous engager? Avec quelle stratégie? Et ces deux questions sont étroitement liées. On peut être en mesure de s'engager, on peut ne pas être en mesure de s'engager, quelle que soit la stratégie. On peut aussi imaginer être en mesure de s'engager, quelle que soit la stratégie, mais je crois que c'est une option un peu luxueuse, qui est plutôt rare, et ça m'étonnerait qu'elle se présente à nous. Et puis, troisième hypothèse, on peut être en mesure de s'engager à condition d'adopter une bonne stratégie. Et je pense que pour les églises, c'est la plupart des cas des projets immobiliers réussis. Une bonne stratégie qui associe les compétences et rassemble les bonnes volontés. Mais qui ne les mobilise pas non plus des années durant, au risque qu'on n'en voit pas la fin, au risque d'épuiser tout le monde, de sacrifier des vies de famille, ou de ne plus avoir de force pour l'évangélisation et le témoignage. Que Dieu nous guide dans l'étude de nos projets à discerner la bonne stratégie pour le mener à son terme. On continue sur le chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. » Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3 000 talents d'argent, d'or, d'ophir, et 7 000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour tout ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui veut encore aujourd'hui présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Et ça, c'est aussi une question que vous allez trouver dans le questionnaire, sous une autre tournure, mais c'est cela que ça veut dire, dans le questionnaire qui va vous être distribué. Voulez-vous participer financièrement au projet immobilier par un effort particulier? Verset 6, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les intendants du roi, firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéiel, le Guershonite. Voilà un autre moyen de participer, le don en nature. Alors c'est vrai que de nos jours, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on ne travaille que très peu les matériaux, on les achète aux dimensions. Et je ne suis pas sûr que celui qui déverserait un camion de pierre sur le trottoir du boulevard Pourchon devant le local recevrait un bon accueil. Mais bon, par contre, peut-être le prêt de matériel, c'est quelque chose qui peut s'avérer utile. Mais je reviens sur le verset 2. Verset 2, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'argent, etc. » J'ai mis toutes mes forces à préparer. Comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle le PEB. Alors, entre nous, on appelle ça le PEB, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais c'est quand même bon de le rappeler. Le PEB, c'est le, je me trompe pas, plan épargne bâtiment, hein, qui est quelque chose qui a été mis en place, voilà, bientôt presque 2 ans, pour commencer à mettre de côté des offrandes particulières réservées à notre projet de bâtiment. Et donc ce PEB, on peut l'alimenter volontairement, maintenant, tout de suite, sans attendre que le projet se concrétise. Avec cette idée que chaque euro du PEB sera un euro en moins à emprunter. Donc il ne s'agit pas évidemment de se mettre sur la paille, et là la situation de chacun est différente, mais seulement de se placer devant le Seigneur pour étudier la part que nous pourrions consacrer à sa maison, et peut-être dès maintenant, sans attendre d'avoir un projet concret. En introduction du questionnaire, vous verrez qu'il est fait référence à la phrase de Jésus qui précède celle que j'ai citée tout à l'heure à propos du roi qui part en guerre. « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Comme pour l'inventaire des capacités et du temps à consacrer, un inventaire financier relève du bon sens. C'est seulement sur la base de ces deux choses, d'un côté le temps, les compétences, l'énergie que nous pouvons consacrer au projet, et les offrandes et les dons financiers de l'autre, que nous pourrons définir une stratégie pour nos projets. Mais pas seulement. Pas seulement. Lisons à partir du verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que nous viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton nom, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Nous souvenir que tout ce que nous donnons, que ce soit du temps, du savoir-faire, de la finance, tout, absolument tout, nous l'avons reçu du Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? Peux-tu citer une seule chose dont tu puisses t'enorgueillir de ne devoir qu'à toi-même ? Tu l'as fait de tes mains ? Bien. Qui t'a donné l'habileté pour le faire ? Tu y as consacré l'essentiel de ton temps ? Bien. Qui t'a donné cette capacité de travail ? Tu l'as conçue à partir du néant ? Bien. Qui t'a donné l'intelligence pour cela ? Verset 14. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et là seulement, nous pourrons présenter ces deux choses au Seigneur, l'inventaire humain et l'inventaire financier, et lui dire, voici ce que nous apportons de nos mains pour ta maison. Tout cela, c'est de toi que nous l'avons reçu. Il manque encore peut-être ceci ou cela, pourvois Seigneur, et guide nos choix.